Chacune de ces fermes est louée aujourd'hui 1 000 francs. Ces fermiers ont si bien fait leurs affaires que chacun d'eux possède au moins 100 arpents de terre, 300 moutons, 20 vaches, 10 bœufs, 5 chevaux, et emploie plus de 20 personnes. Je reprends. Dans le cours de la 4e année, nos fermes furent achevées. Nous eûmes une récolte en blé qui parut miraculeuse aux gens du pays, abondante comme elle devait l'être dans un terrain vierge. J'ai bien souvent tremblé pour mon œuvre pendant cette année. La pluie ou la sécheresse pouvaient ruiner mon ouvrage en amoindrissant la confiance que j'inspirais déjà. La culture du blé nécessita le moulin que vous avez vu et qui me rapporte environ 500 francs par an. Aussi les paysans disent-ils dans leur langage que j'ai la chance, et croient-ils en moi comme en leur relique. Ces constructions nouvelles, les fermes, le moulin, les plantations, les chemins ont donné de l'ouvrage à tous les gens de métier que j'avais attirés ici. Quoique nos bâtiments représentent bien les 60 000 francs que nous avons jetés dans le pays, cet argent nous fut amplement rendu par les revenus que créent les consommateurs. Mes efforts ne cessaient d'animer cette naissante industrie. Par mon avis, un jardinier pépiniériste vint s'établir dans le bourg, où je prêchais aux plus pauvres de cultiver les arbres fruitiers afin de pouvoir un jour conquérir à Grenoble le monopole de la vente des fruits. Vous y portez des fromages, leur disais-je. Pourquoi ne pas y porter des volailles, des œufs, des légumes, du gibier, du foin, de la paille, etc. Chacun de mes conseils était la source d'une fortune. Ce fut à qui les suivrait. Il se forma donc une multitude de petits établissements dont les progrès, lents d'abord, ont été de jour en jour plus rapides. Tous les lundis, il part maintenant du bourg pour Grenoble plus de 60 charrettes pleines de nos divers produits, et il se récolte plus de sarrasins pour nourrir les volailles qu'il ne s'en semait autrefois pour nourrir les hommes. Devenu trop considérable, le commerce des bois s'est subdivisé. Dès la 4e année de notre ère industrielle, nous avons eu des marchands de bois de chauffage, de bois carré, de planches, d'écorce, puis des charbonniers. Enfin, il s'est établi 4 nouvelles scieries de planches et de madriers. En acquérant quelques idées commerciales, l'ancien maire a éprouvé le besoin de savoir lire et écrire. Il a comparé le prix des bois dans les diverses localités, il a remarqué de telles différences à l'avantage de son exploitation, qu'il s'est procuré de place en place de nouvelles pratiques, et il fournit aujourd'hui le tiers du département. Nos transports ont si subitement augmenté que nous occupons 3 charrons, 2 bourreliers, et que chacun d'eux n'a pas moins de 3 garçons. Enfin, nous consommons tant de fer qu'un taillandier s'est transporté dans le bourg et s'en est très bien trouvé. Le désir du gain développe une ambition qui, dès lors, a poussé mes industriels à réagir du bourg sur le canton et du canton sur le département, afin d'augmenter leurs profits en augmentant leurs ventes. Je n'eus qu'un mot à dire pour leur indiquer des débouchés nouveaux. Leur bon sens faisait le reste. 4 années avaient suffi pour changer la face de ce bourg. Quand j'y étais passé, je n'y avais pas entendu le moindre cri. Mais au commencement de la 5e année, tout y était vivant et animé. L'échange joyeux, le bruit des ateliers et les cris sourds ou aigus des outils retentissaient agréablement à mes oreilles. Je voyais aller et venir une active population agglomérée dans un bourg nouveau, propre, assaini, bien planté d'arbres. Chaque habitant avait la conscience de son bien-être, et toutes les figures respiraient le contentement que donne une vie utilement occupée. Ces 5 années forment à mes yeux le premier âge de la vie prospère de notre bourg, reprit le médecin après une pause. Pendant ce temps, j'avais tout défriché, tout mis en germe dans les têtes et dans les terres. Le mouvement progressif de la population et des industries ne pouvait plus s'arrêter désormais. Un second âge se préparait. Bientôt, ce petit monde désira se mieux habiller. Il nous vint un mercier, avec lui le cordonnier, le tailleur et le chapelier. Ce commencement de luxe nous valut un boucher, un épicier, puis une sage-femme, qui me devenait bien nécessaire. Je perdais un temps considérable aux accouchements. Les défrichis donnèrent d'excellentes récoltes, puis la qualité supérieure de nos produits agricoles fut maintenue par les engrais et par les fumiers dus à l'accroissement de la population. Mon entreprise put alors se développer dans toutes ses conséquences. Après avoir assaini les maisons et graduellement amené les habitants à se mieux nourrir, à se mieux vêtir, je voulus que les animaux se ressentissent de ce commencement de civilisation. Des soins accordés aux bestiaux dépend la beauté des races et des individus, partant celle des produits. Je prêchais donc l'assainissement des étables. Par la comparaison du profit que rend une bête bien logée, bien pensée, avec le maigre rapport d'un bétail mal soigné, je fis insensiblement changer le régime des bestiaux de la commune. Pas une bête ne souffrit. Les vaches et les bœufs furent pansés comme ils le sont en Suisse et en Auvergne. Les bergeries, les écuries, les vacheries, les laiteries, les granges se rebâtirent sur le modèle de mes constructions et de celles de M. Gravier, qui sont vastes, bien aérées, par conséquent salubres. Nos fermiers étaient mes apôtres. Ils convertissaient promptement les incrédules en leur démontrant la bonté de mes préceptes par de prompts résultats. Quant aux gens qui manquaient d'argent, je leur en prêtais en favorisant surtout les pauvres industrieux. Ils servaient d'exemple. D'après mes conseils, les bêtes défectueuses, malingres ou médiocres, furent promptement vendues et remplacées par de beaux sujets. Ainsi, nos produits, en un temps donné, l'emportèrent dans les marchés sur ceux des autres communes. Nous eûmes de magnifiques troupeaux et partant de bons cuirs. Ce progrès était d'une haute importance. Voici comment. Rien n'est futile en économie rurale. Autrefois, nos écorces se vendaient à vil prix, et nos cuirs n'avaient pas une grande valeur. Mais nos écorces et nos cuirs, une fois bonifiés, la rivière nous permit de construire des moulins à temps. Il nous vint des tanneurs, dont le commerce s'accrut rapidement. Le vin, jadis inconnu dans le bourg, où l'on ne buvait que des piquettes, y devint naturellement un besoin. Des cabarets se sont établis. Puis le plus ancien des cabarets s'est agrandi, s'est changé en auberge et fournit des mulets aux voyageurs qui commencent à prendre notre chemin pour aller à la Grande Chartreuse. Depuis 2 ans, nous avons un mouvement commercial assez important pour faire vivre 2 aubergistes. Au commencement du second âge de notre prospérité, le juge de paix mourut. Fort heureusement pour nous, son successeur fut un ancien notaire de Grenoble, ruiné par une fausse spéculation, mais auquel il restait encore assez d'argent pour être riche au village. Monsieur Gravier sut le déterminer à venir ici. Il a bâti une jolie maison. Il a secondé mes efforts en y joignant les siens. Il a construit une ferme et défriché des bruyères. Il possède aujourd'hui 3 chalets dans la montagne. Sa famille est nombreuse. Il a renvoyé l'ancien greffier, l'ancien huissier, et les a remplacés par des hommes beaucoup plus instruits et surtout plus industrieux que leurs prédécesseurs. Ces 2 nouveaux ménages On créait une distillerie de pommes de terre et un lavoir de laine, deux établissements fort utiles que les chefs de ces deux familles conduisent tout en exerçant leur profession. Après avoir constitué des revenus à la commune, je les employais sans opposition à bâtir une mairie dans laquelle je mis une école gratuite et le logement d'un instituteur primaire. J'ai choisi pour remplir cette importante fonction un pauvre prêtre assermenté, rejeté par tout le département et qui a trouvé parmi nous un asile pour ses vieux jours. La maîtresse d'école est une digne femme ruinée qui ne savait où donner de la tête et à laquelle nous avons arrangé une petite fortune. Elle vient de fonder un pensionnat de jeunes personnes où les riches fermiers des environs commencent à envoyer leurs filles. Monsieur, si j'ai eu le droit de vous raconter jusqu'ici l'histoire de ce petit coin de terre en mon nom, il est un moment où Monsieur Janvier, le nouveau curé, vrai fénelon réduit aux proportions d'une cure, a été pour moitié dans cette œuvre de régénération. Il a su donner aux mœurs du bourg un esprit doux et fraternel qui semble faire de la population une seule famille. Monsieur Dufaux, le juge de paix, quoique venu plus tard, mérite également la reconnaissance des habitants. Pour vous résumer notre situation par des chiffres plus significatifs que mes discours, la commune possède aujourd'hui 200 arpents de bois et 160 arpents de prairies. Sans recourir à des centimes additionnels, elle donne 100 écus de traitement supplémentaire au curé, 200 francs aux gardes champêtres, autant au maître et à la maîtresse d'école. Elle a 500 francs pour ses chemins, autant pour les réparations de la mairie, du presbytère, de l'église et pour quelques autres frais. Dans 15 ans d'ici, elle aura pour 100 000 francs de bois à abattre et pourra payer ses contributions sans qu'il en coûte un denier aux habitants. Elle sera certes l'une des plus riches communes de France. Mais, monsieur, je vous ennuie peut-être, dit Benassi à Genasta, en surprenant son auditeur dans une attitude si pensive qu'elle devait être prise pour celle d'un homme inattentif. Oh non, dit le commandant. Monsieur, reprit le médecin, le commerce, l'industrie, l'agriculture et notre consommation n'étaient que locales. À un certain degré, notre prospérité se fut arrêtée. Je demandais bien un bureau de poste, un débit de tabac, de poudre et de cartes. Je forçais bien par les agréments du séjour et de notre nouvelle société le percepteur des contributions a quitté la commune de laquelle il avait jusqu'alors préféré l'habitation à celle du chef-lieu de canton. J'appelais bien, en temps et lieu, chaque production quand j'avais éveillé le besoin. Je fis bien venir des ménages et des gens industrieux. Je leur donnais bien à tous le sentiment de la propriété. Ainsi, à mesure qu'ils avaient de l'argent, les terres se défrichaient. La petite culture, les petits propriétaires envahissaient et mettaient graduellement en valeur la montagne. Les malheureux que j'avais trouvés ici portant à pied quelques fromages à Grenoble y allaient bien en charrette, menant des fruits, des œufs, des poulets, des dindons. Tous avaient insensiblement grandi. Le plus mal partagé était celui qui n'avait que son jardin, ses légumes, ses fruits, ses primeurs à cultiver. Enfin, signe de prospérité, personne ne cuisait plus son pain afin de ne point perdre de temps, et les enfants gardaient les troupeaux. Mais, monsieur, il fallait faire durer ce foyer industriel en y jetant sans cesse des aliments nouveaux. Le bourg n'avait pas encore une renaissante industrie qui put entretenir cette production commerciale et nécessiter de grandes transactions, un entrepôt, un marché. Il ne suit pas à un pays de ne rien perdre sur la masse d'argent qu'il possède et qui forme son capital. Vous n'augmenterez point son bien-être en faisant passer avec plus ou moins d'habileté, par le jeu de la production et de la consommation, cette somme dans le plus grand nombre possible de mains. Là n'est pas le problème. Quand un pays est en plein rapport, que ses produits sont en équilibre avec sa consommation, il faut, pour créer de nouvelles fortunes et accroître la richesse publique, faire à l'extérieur des échanges qui puissent amener un constant actif dans sa balance commerciale. Cette pensée a toujours déterminé les États sans base territoriale, comme Tyr, Carthage, Venise, la Hollande et l'Angleterre, à s'emparer du commerce de transport. Je cherchais pour notre petite sphère une pensée analogue, afin d'y créer un troisième âge commercial. Notre prospérité, sensible à peine aux yeux d'un passant, car notre chef-lieu de canton ressemble à tous les autres, fut étonnante pour moi seul. Les habitants, agglomérés insensiblement, n'ont pu juger de l'ensemble en participant au mouvement. Au bout de 7 ans, je rencontrai 2 étrangers, les vrais bienfaiteurs de ce bourg, qu'ils métamorphoseront peut-être en une ville. L'un est un tyrolien d'une adresse incroyable, et qui confectionne les souliers pour les gens de la campagne, les bottes pour les élégants de Grenoble, comme aucun ouvrier de Paris ne les fabriquerait. Pauvre musicien ambulant, un de ces Allemands industrieux qui font et l'œuvre et l'outil, la musique et l'instrument. Il s'arrêta dans le bourg en venant de l'Italie qu'il avait traversée en chantant et travaillant. Il demanda si quelqu'un n'avait pas besoin de souliers. On l'envoya chez moi. Je lui commandai 2 paires de bottes dont les formes furent façonnées par lui. Surpris de l'adresse de cet étranger, je le questionnai. Je le trouvais précis dans ses réponses, ses manières, sa figure. Tout me confirma dans la bonne opinion que j'avais prise de lui. Je lui proposai de se fixer dans le bourg, en lui promettant de favoriser son industrie de tous mes moyens, et je mis en effet à sa disposition une assez forte somme d'argent. Il accepta. J'avais mes idées. Nos cuirs s'étaient améliorés. Nous pouvions dans un certain temps les consommer nous-mêmes en fabriquant des chaussures à des prix modérés. J'allais recommencer sur une plus grande échelle l'affaire des paniers. Le hasard m'offrait un homme éminemment habile et industrieux que je devais embaucher pour donner au bourg un commerce productif et stable. La chaussure est une de ces consommations qui ne s'arrêtent jamais, une fabrication dont le moindre avantage est promptement apprécié par le consommateur. J'ai eu le bonheur de ne pas me tromper, monsieur. Aujourd'hui, nous avons 5 tanneries. Elles emploient tous les cuirs du département, elles en vont chercher quelquefois jusqu'en Provence, et chacune possède son moulin à tanne. Eh bien, monsieur, ces tanneries ne suffisent pas à fournir le cuir nécessaire au Tyrolien, qui n'a pas moins de 40 ouvriers. L'autre homme, dont l'aventure n'est pas moins curieuse, mais qui serait peut-être pour vous fastidieuse à entendre, est un simple paysan qui a trouvé les moyens de fabriquer à meilleur marché que partout ailleurs les chapeaux à grands bords en usage dans le pays. Il les exporte dans tous les départements voisins, jusqu'en Suisse et en Savoie. Ces 2 industries, sources intarissables de prospérité, si le canton peut maintenir la qualité des produits et leur bas prix, m'ont suggéré l'idée de fonder ici 3 foires par an. Le préfet, étonné des progrès industriels de ce canton, m'a secondé pour obtenir l'ordonnance royale qui les a instituées. L'année dernière, nos 3 foires ont eu lieu. Elles sont déjà connues jusque dans la Savoie sous le nom de la foire aux souliers et aux chapeaux. En apprenant ces changements, le principal clerc d'un notaire de Grenoble, jeune homme pauvre mais instruit, grand travailleur, et auquel Mademoiselle Gravière est promise, est allé solliciter à Paris l'établissement d'un office de notaire. Sa demande lui fut accordée. Sa charge ne lui coûtant rien, il a pu se faire bâtir une maison en face de celle du juge de paix sur la place du Nouveau-Bourg. Nous avons maintenant un marché par semaine. Il s'y conclut des affaires assez considérables en bestiaux et en blé. L'année prochaine, il nous viendra sans doute un pharmacien, puis un horloger, un marchand de meubles et un libraire, enfin les superfluités nécessaires à la vie. Peut-être finirons-nous par prendre tournure de petite ville et par avoir des maisons bourgeoises. L'instruction a tellement gagné que je n'ai pas rencontré dans le conseil municipal la plus légère opposition quand j'ai proposé de réparer, d'orner l'église, de bâtir un presbytère, de tracer un beau champ de foire, d'y planter des arbres et de déterminer un alignement pour obtenir plus tard des rues saines, aérées et bien percées. Voilà, monsieur, comment nous sommes arrivés à avoir 1900 feux au lieu de 137, 3000 bêtes à cornes au lieu de 800, et au lieu de 700 âmes, 2000 personnes dans le bourg, 3000 en comptant les habitants de la vallée. Il existe dans la commune 12 maisons riches, 100 familles aisées, 200 qui prospèrent, le reste travaille. Tout le monde sait lire et écrire. Enfin, nous avons 17 abonnements à différents journaux. Vous rencontrerez bien encore des malheureux dans notre canton. J'en vois certes beaucoup trop, mais personne n'y mendie. Il s'y trouve de l'ouvrage pour tout le monde. Je lasse maintenant 2 chevaux par jour à courir pour soigner les malades. Je puis me promener sans danger à toute heure dans un rayon de 5 lieues. Et qui voudrait me tirer un coup de fusil ne resterait pas 10 minutes en vie. L'affection tacite des habitants est tout ce que j'ai personnellement gagné à ces changements, outre le plaisir de m'entendre dire par tout le monde d'un air joyeux quand je passe « Bonjour, monsieur Benassis !» Vous comprenez bien que la fortune involontairement acquise dans mes fermes modèles est, entre mes mains, un moyen et non un résultat. Si dans toutes les localités chacun vous imitait, monsieur, la France serait grande et pourrait se moquer de l'Europe, s'écria Genestas, exalté. Mais il y a une demi-heure que je vous tiens là, dit Bénassis. Il est presque nuit. Allons nous mettre à table. Du côté du jardin, la maison du médecin présente une façade de 5 fenêtres à chaque étage. Elle est composée d'un rez-de-chaussée surmonté d'un premier étage et couverte d'un toit en tuiles percé de mansardes saillantes. Les volets peints en vert tranchent sur le ton grisâtre de la muraille, où, pour ornement, une vigne règne entre les 2 étages, d'un bout à l'autre, en forme de frise. Au bas, le long du mur, quelques rosiers du Bengale végètent tristement, à demi noyés par l'eau du toit, qui n'a pas de gouttière. En entrant par le grand palier qui forme antichambre, il se trouve à droite un salon à 4 fenêtres donnant les unes sur la cour, les autres sur le jardin. Ce salon, sans doute l'objet de bien des économies et de bien des espérances pour le pauvre défunt, est planchéié, boisé par en bas et garni de tapisseries de l'avant-dernier siècle. Les grands et larges fauteuils, couverts de lampasses à fleurs, les vieilles girandoles dorées qui ornent la cheminée et les rideaux à gros glands annonçaient l'opulence dont avait joui le curé. Benassis avait complété cet ameublement, qui ne manquait pas de caractère, par 2 consoles de bois à guirlandes sculptées, placées en face l'une de l'autre dans l'entre-deux des fenêtres, et par un cartel d'écailles incrusté de cuivre qui décorait la cheminée. Le médecin habitait rarement cette pièce qui exhale l'odeur humide des salles toujours fermées. On y respirait encore le défunt curé, la senteur particulière de son tabac semblait même sortir du coin de la cheminée où il avait l'habitude de s'asseoir. Les deux grandes bergères étaient symétriquement posées de chaque côté du foyer où il n'y avait pas eu de feu depuis le séjour de M. Gravier, mais où brillaient alors les flammes claires du sapin.